France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est avec joie, bonheur et quelques paillettes, l'un d'entre eux est même rentré en moonwalk, c'est dire qu'ils sont venus. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'économiste Romain Rivaton, bonsoir.
Bonsoir.
Également Sybille Vincendon, bonsoir. De Libération, Vincent Trémollet, bonsoir.
Bonsoir.
Du Figaro et Jordan Bardella, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Front National et ce soir, Trump, un président comme les autres, Front National contre Patriotes, le match. La croissance repart, mais où est l'argent? Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. C'est un mouvement social sans précédent, un mouvement protestant contre le manque de moyens, mais qui nous interroge également sur le traitement de la vieillesse dans nos sociétés, sur l'abandon et la dignité. Les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, étaient en grève aujourd'hui. 6900 établissements publics, privés, non lucratifs et privés commerciaux qui hébergent près de 728 000 personnes âgées, 10% de plus de 75 ans et plus d'un tiers de 90 ans, et totalement à bout de souffle, en fait, depuis des mois, voire des années, les professionnels du secteur alertent sur les conditions de travail et d'accueil des personnes âgées qui se sont considérablement dégradées. Les témoignages sont effrayants et semblent effarants dans un pays comme le nôtre. Mauvais élève européen, moins de 60 agents pour 100 résidents. L'État a prévu 150 millions supplémentaires, mais ce n'est pas assez pour anticiper. Et en attendant, la situation dramatique perdure. Un petit exemple avec Francine Brély, elle est aide-soignante.
Je trouve que les conditions de travail n'ont jamais été aussi catastrophiques. Plus ça va, plus on nous en demande. On vient de nous retirer deux aides-soignantes de jour. Et il faut toujours que le travail soit fait, quand même. Hein, ce sont des résidents qui payent quand même 2000 euros par mois. On a de moins en moins de temps à passer auprès d'eux. Là, je viens de faire une toilette en mode dégradé. C'est, mettons, on ne va pas raser quelqu'un, ou on lave pas les pieds. Ou c'est pitoyable. Enfin, je conseille à personne de venir en EHPAD, franchement.
Voilà, Francine Brély, donc aide-soignante. Alors, concernant les personnes âgées dans ces établissements, le mot violence, Vincent Trémollet, est utilisé. Il y a même le dirigeant de la CFDT, Laurent Berger, à propos du sous-investissement de l'État, il parle de violence institutionnelle. Est-ce que le terme, finalement, est bien choisi? Est-ce que c'est une violence auquel on assiste?
Bah, certains aspects, peut-être, oui. Vous savez, la façon dont les personnes âgées sont traitées dans nos pays occidentaux impressionne beaucoup d'autres pays. Moi, je me souviens au moment de la canicule, quand vous parliez avec un Africain de ce qui s'était passé chez nous, il ne comprenait pas que ça puisse arriver, qu'il y ait un lien social suffisamment distendu pour que l'on oublie les gens. Et là, je pense que le problème face auquel on est, il y a un problème pratique, budgétaire, immédiat, mais il y a un problème de civilisation, c'est-à-dire il y a cette notion de dépendance. On dit la dépendance, mais tout être est dépendant. Une société est faite d'être interdépendant. Le mot plus joli, c'est la sociabilité. Or, cette sociabilité permet d'entourer autrement que par des aspects techniques des personnes qui sont de plus en plus seules et qui vivent de plus en plus mal et de plus en plus vieilles. Et là, on voit que la société atomisée dont parle Marcel Gauchet arrive à ses effets les plus sombres. Ce que je trouvais terrible, c'est que là, les deux niveaux existent. C'est-à-dire, si vous avez une famille, si vous avez un peu d'argent, vous arrivez encore à aller dans des structures où vous pouvez être soigné. Et les autres? Alors là, c'est vraiment les derniers des derniers, parce que dernier point, le culte de la jeunesse comme espèce de moment le plus performant et le plus central de l'existence fait que ces personnes-là se sentent un peu plus déclassées. Donc je ne sais pas s'il y a de la violence. Moi, il y a un mot qui m'est apparu en préparant cette émission, celui de déshumanisation.
C'est ça, Sybille Vincendon. On est dedans quand vous avez cette aide-soignante qui dit « je conseille à personne d'aller dans les EHPAD », c'est quand même c'est dur, quoi.
Nous, on a publié un témoignage d'une aide-soignante et qui dit « je me retrouve dans une situation de maltraitance ». C'est-à-dire qu'elle dit « je commence à distribuer des médicaments à 7h15, je termine à 10h15 ». Ça veut dire qu'elle est toute seule pour le faire et elle a le sentiment qu'elle se dépêche, qu'elle stresse les patients, qu'elle stresse les gens qu'elle est supposée soigner. Et quand même, là où il y a une question, c'est qu'il y a vraiment, c'est ce que fait l'INSEE, il compte deux âges. Il compte l'espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie tout court. Et c'est cette espérance de vie tout court qui nous pose un problème. Et pour ce qui est des familles, ce qui est compliqué, c'est que quand elle parle de 2000 euros euros l'aide-soignante que vous avez interviewée. Parfois, c'est 3 000, 3 500. Et vous n'avez pas véritablement un encadrement meilleur.
Jean-Anne Bardella, est-ce qu'on est là justement dans un problème de lien générationnel aujourd'hui par rapport aux personnes âgées en gros, d'un côté, on les met dans les EHPAD, et puis voilà, on attend.
Je crois qu'il y a, c'est un véritable débat de société. Maintenant, moi, j'ai un regard peut-être plus pragmatique sur la question. Je crois que depuis ce début d'année, on assiste à une véritable contagion, en réalité, de toutes ces révoltes, de toutes ces contestations. On le voit au niveau de la sécurité avec les forces de l'ordre. On l'a vu très récemment avec le personnel pénitentiaire. Aujourd'hui et depuis hier, avec le personnel des aides-soignants dans les EHPAD, je crois qu'il y a un véritable cri d'alarme qui est poussé par tous ces serviteurs de l'État, ces serviteurs de la société qui, en dépit de conditions de travail de plus en plus difficiles, essaient d'accomplir leur travail. Il y a un véritable manque de moyens, manque d'effectifs. Nous avons proposé, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle, de créer un cinquième risque de la sécurité sociale, une cinquième branche liée notamment à ces problèmes de dépendance. Effectivement, c'est un véritable débat de société. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on rentre très vite dans les propositions et que le gouvernement puisse quand même faire des propositions là-dessus et agir, parce qu'effectivement, face à toutes ces contestations et ces révoltes qu'on a depuis le début janvier dans toutes ces professions, on entend assez peu le gouvernement et moi, ça m'inquiète.
On va y venir à ces différents mouvements sociaux, mais encore un mot, Romaric Vatton, quand même, sur les EHPAD. D'ici à 2060, les Français devraient avoir gagné 7 ans d'espérance de vie. Donc, à cette date, il y a un citoyen sur 3 qui aura plus de 60 ans, contre 1 sur 4 aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même, on a l'impression qu'il y a toujours un problème d'anticipation. On se dit pas, tiens, voilà, d'ici 2060, faudra renforcer aussi ces structures d'accueil. Donc, est-ce que le problème va toujours se poser?
Le problème va structurellement se poser. On peut lier la question des hôpitaux aussi, sachant que la situation dans les EHPAD est beaucoup plus diverse que celle qu'il n'y a pas que des fonctionnaires dans les EHPAD. Il y a une partie importante du secteur qui est travaillée par le secteur privé. Il y a une partie des gens qui vivent toujours à domicile, qui sont dans des structures on essaie de faire de plus en plus de la maintenance à domicile aujourd'hui avec du soutien à domicile, parce que c'est aussi une stratégie qu'on a pris et on a compris que mettre tout le monde au même endroit, c'était pas forcément la bonne solution qu'on pouvait imaginer, parce que il est important que les gens puissent rester dans leur quotidien, et que quand quelqu'un quitte son domicile pour aller dans ces structures, malheureusement ça casse quelque chose très fortement dans sa capacité à résister. Aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est effectivement un allongement de l'espérance de vie, un allongement de l'espérance de vie notamment en conditions mauvaise santé ou en conditions dégradées. Et donc la solution qui se pose à nous très concrètement, comme beaucoup d'autres risques qu'on met, c'est est-ce qu'on le fait porter par les ménages, est-ce qu'on le fait porter par l'État? Oui. Si on le fait porter par l'État, collectivement, l'investissement à faire est gigantesque. Aujourd'hui, les listes d'attente pour entrer dans les structures publiques qui sont gérées par les départements sont extrêmement longues. Mmh. Est-ce que si on se dit qu'on le fait porter par les ménages, quelles mesures on est prêt à prendre? Est-ce qu'on est prêt à prendre, par exemple, des mesures de reprise sur héritage qui existent dans les pays nordiques, qui font que les personnes
qui existent en France,
qui sont très limitées quand on regarde la réalité des choses.
On va en parler dans un instant, justement, de tout ça. L'info à 20h11. Bah, décidément, Stéphane Milhomme.
La procureure de Besançon donnera une conférence de presse dans une heure. La suite des aveux de Jonathan Daval. L'homme a reconnu ce soir avoir étranglé son épouse Alexia, mais sans intention de la tuer. C'était en octobre dernier. Il va être présenté ce soir à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Un garçon de 8 ans portant une kippa agressé hier à Sarcelles en région parisienne, sans mobile apparent. La police retient la piste de l'acte antisémite. Le jeune a été roué de coups par deux adolescents de 15 ans alors qu'il se rendait à un cours de soutien scolaire. Les vœux d'Emmanuel Macron ce soir aux forces vives de la nation. Le chef de l'État souhaite supprimer la quasi-moitié du nombre des membres du Conseil économique et social et environnemental, le transformer en chambre du futur afin, dit-il, d'éclairer le gouvernement sur l'impact des projets de loi. Près d'un tiers des personnels des EHPAD étaient mobilisés aujourd'hui par la grève, un peu moins de 32% selon les chiffres de la Direction générale de la cohésion sociale. Rassemblement à Nantes, Lyon, Nice, Marseille, à Paris, où une délégation a été reçue dans l'après-midi au ministère de la Santé, mais sans obtenir les moyens demandés pour ces maisons de retraite spécialisées. Et puis la carte de France des inondations reste bloquée ce soir à 12 départements. Vigilance orange de la Seine-Maritime à l'Aube et la Marne, avec toute la région parisienne au milieu. Également la Saône-et-Loire et Bercy demandent aujourd'hui aux assureurs une indemnisation rapide des victimes de ces crues.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot à propos des EHPAD, hein, puisque là, il y avait 36% voilà, de ces aujourd'hui des EHPAD qui étaient en grève pour crier aujourd'hui le malaise. Sylvie Vincent, dont le quinquennat Sarkozy avait mis en place une réforme de la dépendance qui n'a finalement pas été financée. Sous François Hollande, on n'a pas rallongé du tout, mais on a un peu émietté, on a dispersé. Voilà, est-ce qu'on est vraiment là aujourd'hui, c'est le côté parent pauvre, c'est-à-dire qu'on s'en sert aujourd'hui, on se sert comme d'autres domaines finalement pour faire des économies depuis longtemps.
Ben, en tout cas, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de débat public. C'est-à-dire qu'il y a un débat public sur l'accueil de la petite enfance, sur ce genre de questions très familiales, mais sur les parents, sur les parents âgés. Franchement, on a l'impression que les gens des EHPAD ont 1000 débats sur la table. Mmh. Et ils ont aussi une autre caractéristique, c'est que c'est un métier. Ils ont quand même des arrêts de travail pour des troubles musculo-squelettiques davantage que le BTP.
Ouais.
Il faut imaginer ça quand même.
Robin Rivaton.
Les moyens sont en augmentation, qui sont directement liés à la situation démographique. C'est-à-dire qu'on peut, on peut pas dire qu'il y a une réduction des moyens. Les moyens sont très largement en augmentation et ils vont continuer de l'être. La seule question qui vraiment doit se poser à nous, et c'est pour ça que le débat est, comment dire, c'est pas pour le déshumaniser, le débat est extrêmement dur et on peut le prendre par les situations individuelles et c'est, le but n'est pas de nier ça, mais si on le prend d'un point de vue de la société, d'un point de vue politique et de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de nos aînés, la question c'est est-ce qu'on s'adresse aux familles, est-ce qu'on s'adresse à l'État, est-ce qu'on mutualise cette protection. Et encore une fois, la logique, je réinsiste là-dessus parce qu'elle est importante, la logique des pays scandinaves aujourd'hui, c'est de dire que les familles doivent supporter en partie, une grande partie de ces frais-là, et donc supporter ces frais-là, ça veut dire qu'il y a une reprise sur héritage des sommes qui sont engagées par la puissance publique, en l'occurrence en France c'est les départements.
À supposer qu'il y ait héritage,
qui sont engagées par la puissance publique sur ces dépenses-là. Donc c'est vraiment un sujet de société extrêmement important, mais qui après va segmenter la façon dont des gens, et parce qu'aujourd'hui il y a quand même des problèmes qui sont soulevés aussi, c'est le manque de visites des familles, c'est parfois
et la dépendance aussi, voilà,
des logiques d'abondant aussi.
Toutes les notions immatérielles ne pourront pas être données par l'État. Il y a un moment où on peut dire tout ce qu'on veut et ceux qui y travaillent, les fonctionnaires sont remarquables, mais il y a un certain nombre de choses qui sont indispensables à un être humain, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit moyen, c'est un certain nombre de relations. Et ça, il y a quand même, il y a un impensé dont parlait Sybille dans notre société où, en fait, on évacue ça. C'est-à-dire que dans les situations particulières, chacun connaît une grand-mère, une mère, une tante, un père, etc. Mais il n'y a pas de réflexion globale parce qu'il y a une gêne,
vis-à-vis
de la disparition de la jeunesse et des performances qui vont avec.
Mais je crois évidemment qu'on mesure aussi le degré de civilisation d'une société à l'attention qu'il porte à ses seniors. Et donc oui, il faut faire des efforts sur la construction des EHPAD, sur la revalorisation de la profession d'aide-soignante, tant sur les compensations financières que sur la formation, que sur les effectifs. Donc oui, il y a des efforts à faire et je crois qu'il faut entendre aussi les revendications qui ont été portées ce jour dans un certain nombre d'EHPAD.
Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean de Mardella, Vincent Trémolet, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des mouvements, un point de politique, des mouvements. Alors, il y a des mouvements de gardes de prison dans les hôpitaux, les EHPAD. On a l'impression que c'est autant de tensions que le gouvernement n'a pas vu venir. Vincent Trémolet, est-ce que c'est cela finalement, alors autant la loi travail c'était balisé, c'était encadré, autant les autres, mais alors cela,
ben on retrouve un pays qui n'est pas en pleine forme, c'est peu de le dire, qui est fragmenté, qui est inquiet dans certains nombres de ces domaines, mais après je pense qu'il faut pas mettre tout là, c'est vraiment un sujet de civilisation sur lequel le gouvernement ne peut rien.
Mais on disait ça pour les prisons aussi.
Je pense que les prisons, il y a eu pour le coup au départ peut-être, alors il a changé depuis, mais Emmanuel Macron n'affichez pas pour les sujets régaliens un intérêt premier. Mmh. Et les prisons, c'est un peu le bout de la chaîne du régalien. C'est quand on s'en est pas occupé, on arrive là. Donc bon, c'est aussi jailli avec lui. Il est là depuis 8 mois. On va voir s'il prend ça en main. Moi, j'ai seulement trouvé que l'attitude de Nicole Belloubet et d'Edouard Philippe vis-à-vis des gardiens de prison manquait un peu d'attention et de soutien.
Jean de Maver.
Mais c'est-à-dire que depuis le début de quinquennat, en fait, M. Macron, il multiplie les opérations de communication. Et là, effectivement, les opérations de com commencent un peu à s'estomper. Et on commence effectivement à voir depuis le 1er janvier la véritable détresse du pays. Je crois qu'on est dans une France de l'insécurité permanente, insécurité physique dans la rue, insécurité au quotidien, insécurité dans les conditions de travail, insécurité vis-à-vis de la santé. Donc oui, je veux dire, cette France, c'est un pays qui est malade, qui est sclérosé par la pauvreté qui augmente aussi, par la diminution des moyens qu'on donne à nos missions régaliennes, dans l'éducation, dans le milieu de la sécurité, dans le milieu de la santé, dans les hôpitaux, etc. Et donc, évidemment, derrière les effets de propagande et les effets de communication de M. Macron, il y a un pays qui a besoin d'un État fort.
C'est le pays qu'il a eu aussi, Jean de Bardella.
Bon, c'est un autre débat.
Bah oui, mais
je ne crois pas que M. Macron ait été élu sur son projet. Oui. Je pense qu'on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus.
Bah, c'est vrai. Sybille Vincent, donc, pour vous, est-ce que ces mouvements, voilà, différents, de différentes formes, en effet, mais que le gouvernement, là, au mois de janvier, on voit qu'il y a différents, voilà, des incendies.
Je me demande s'il n'y a pas aussi un effet de télescopage avec toutes les bonnes nouvelles. Autrement dit, il y a la croissance, il y a la reprise, la France a de bonnes notes et tout ça. Et en même temps, c'est vrai que l'état des prisons en France, c'est quand même une calamité. Alors, en plus de ça, il y a une espèce de course en avant, parce qu'on recrée des places, on reconstruit des prisons, et en plus, il faut voir sur quel modèle constructif, c'est vraiment c'est du copier-coller partout, et on n'obtient finalement rien de ce que disait Robert Badinter quand il disait que la peine, c'est la privation de liberté, pointe à la ligne.
Et puis, pour compléter ce que vous dites, il y a aussi ce sentiment d'injustice. C'est-à-dire, moi j'ai rencontré les surveillants pénitentiaires à Fresnes la semaine dernière, et ils m'expliquaient, on a l'impression que l'État fait plus et fait davantage pour les détenus que pour nous. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce sentiment de
poids. Faut pas exagérer
non
plus, quand même.
C'est ce qu'ils me disent, madame, en l'occurrence. Et je crois que c'est aussi le sentiment qu'ont les forces de l'ordre quand ils voient que d'un côté, la justice fait preuve d'un laxisme absolument inouï et ahurissant vis-à-vis de la délinquance et de la criminalité. Et qu'en même temps, les forces de l'ordre disposent de moins en moins de moyens pour faire leur travail. Je me fais encore une fois le porte-voix de milliers de serviteurs de l'État qui travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles.
On peut se voiler
la face. Et de la même manière, moi, si vous voulez, je suis quand même surpris de voir qu'à chaque fois, on a vu hier les révélations sur l'affaire Théo qui ont démontré encore une fois.
Ça n'a rien à voir.
Je veux dire que la police ne se sent pas soutenue aujourd'hui. Il faut entendre le cri d'alarme qui est émis par les serviteurs de l'État. Encore une fois, il faut arrêter de se voiler la face.
Juste en un mot, puisqu'en fait, depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a des baisses de budget. Lisez sur quelques années ce qu'est le budget de l'État. Vous verrez que tous ces budgets sont en augmentation. Ils sont en augmentation parce que l'État, encore une fois, a des missions qui continuent d'augmenter. On a parlé de celles qui constituent aujourd'hui de répondre à la dépendance par la solidarité nationale, donc pas faire reposer par la famille comme on le faisait auparavant, mais le prendre en charge par la solidarité nationale. Et donc, les dépenses augmentent petit à petit. Et au final, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas capable on veut maintenir le niveau de prélèvement obligatoire, donc d'imposition, donc on le limite. Et de l'autre côté, les dépenses continuent d'augmenter, donc forcément, à un moment, tout ça est en train de craquer. Et ce qu'on voit ici sur les hôpitaux, ce qu'on voit sur la police, on l'a vécu dans l'éducation il y a encore quelques années, on le voit dans d'autres secteurs de l'intervention sociale, c'est que quand on veut faire plus avec des moyens qui sont stagnants, qu'est-ce qui se passe? Et bien, la qualité se détériore. Mais c'est valable pour un très grand ensemble de politiques publiques, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre de Français vont, par exemple, vers des solutions privées, dans un certain nombre de services publics. Alors, on l'a vu sur l'école, par exemple. On le verra de plus en plus dans les hôpitaux. Et on le verra peut-être demain dans la sécurité.
Je crois que nos policiers, nos gendarmes ou surveillants pénitentiaires n'en voient pas vraiment la couleur.
Alors, on va parler dans un instant de la croissance. On va voir justement qui peut en profiter. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Jonathan Daval est donc passé aux aveux. Il reconnaît avoir tué son épouse Alexia. Plus de 36 heures de garde à vue. Et l'informaticien de 34 ans reconnaît l'avoir étranglé sans intention de la tuer à la suite d'une dispute. Mais il nie avoir brûlé son corps. La joggeuse avait été retrouvée fin octobre dans un bois de Haute-Saône. Une perquisition aujourd'hui à la mairie de Marseille pour une enquête sur le temps de travail des employés des agents municipaux du SAMU social. Ils sont soupçonnés d'avoir gonflé leur nombre d'heures à travers un système de faux pointage. Les gendarmes sont intervenus à la demande du parquet national financier. L'Assemblée nationale adopte largement le projet de loi sur le droit à l'erreur. Il permet, sous réserve d'être de bonne foi, c'est-à-dire d'éviter aux contribuables particuliers comme entreprises des sanctions de l'administration au premier manquement. Le premier discours attendu de Donald Trump sur l'état de l'Union. Le président des États-Unis doit commenter au cœur de la nuit les bons résultats de l'économie depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Mais des élus boycotteront le discours ou s'habilleront de noir en soutien au mouvement contre le harcèlement sexuel. Les Bretons accueillent les Parisiens. Rennes face au PSG dans moins de trois quarts d'heure. C'est l'affiche de la demi-finale de la Coupe de la Ligue de football. Et demain soir, Monaco sera opposé à Montpellier.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, pour annoncer la bonne nouvelle, on a voulu sortir la corne de brume, mais comme nous sommes à côté du Parc des Princes, on a eu peur que ce soit mal interprété. Objectivité footballistique oblige. Ça y est, la croissance est donc de retour. Voilà, c'est délirant. 1,9% en 2017, du jamais vu depuis 6 ans, on peut décongeler les pains surprises, donc ça réinvestit à gogo, ça consomme à ne plus savoir qu'en faire, et les exportations, pff, on n'en parle même pas puisque le chiffre est doublé, voilà. Alors maintenant, on en fait quoi de cette croissance? Eh ben, on va jusqu'à 2%, d'accord? Mais après, oh bah 10, 20, voilà, bah, on ne sait pas vraiment en fait, puisqu'alors que le chômage de masse est toujours présent en France, qu'il y a plus de 4 millions de mal logés, à quoi sert un bon chiffre de croissance? En tout cas, le gouvernement se réjouit, mais tout doux, bijou, ce ne serait pas de son fait, Stéphane Le Foll.
Bruno Le Maire arrive, comme toujours d'ailleurs, avec une manière très factice de présenter les choses, alors que la réalité, il suffit d'être objectif. Alors, l'élection d'Emmanuel Macron est quelque chose qui est venu aussi donner cette espèce d'élan qui a été celui de cette élection présidentielle, certes, mais de dire que c'est Emmanuel Macron, toutes les mesures qui ont été prises et qui s'appliquent aujourd'hui, qui ont des effets concrets, c'est des mesures qui ont été prises par François Hollande.
Ça veut dire... Voilà, Stéphane Le Foll. Donc ce matin, sur la chaîne parlementaire, pourquoi ça vous fait rire, Vincent
Parce
Trémollet?
Parce qu'il y a quelque chose de touchant dans le Hollande et sa bande qui répètent à qui ils le peuvent que ça vient d'eux.
Est-ce que c'est pas faux en même temps?
Non, mais
est-ce que c'est
faux? C'est vrai. Mais le CICE, c'est eux. Mais bon, il y a un moment, la symbolique et la perception s'imposent aux gens. Et il se trouve que Emmanuel Macron incarne physiquement la réforme. C'est comme ça. Mmh. Et François Hollande incarne l'immobilisme. C'est comme ça. Alors peut-être qu'après, il y a des nuances. Mais on les voit s'agiter. Et il y a quelque chose, oui, d'un peu touchant et d'un peu pathétique.
C'est vrai que même si la gauche a vraiment préparé le terrain, parce qu'on voit en matière fiscale, sur le régime des impatriés. Mmh. Ils ne s'en sont pas vantés spécialement sur les toits, mais ils ont quand même facilité le retour des gens qui gagnaient de l'argent à l'étranger ou bien les investissements étrangers. Et
ils ont facilité leur départ quand même au début.
Au début, mais ils ont vraiment facilité leur retour aujourd'hui. Et c'est vrai que Hollande ne pouvait pas incarner ça. Donc la chance de Macron, c'est d'arriver.
Puis il faut quand même un peu d'élan.
Alors, Robin Ribaton, c'était vraiment inattendu parce que alors, les Français, pour l'instant, quand on dit croissance, forcément, on se dit on va en profiter. Là, pour l'instant, on n'en profite pas tellement.
On n'en profite pas tellement, effectivement. Il n'y a pas un impact aujourd'hui très très fort de la croissance sur le chômage. Aussi parce que cette année, il y a quand même eu la fin d'un maquillage comptable des statistiques du chômage avec la fin des emplois aidés qui avaient été gonflés en des proportions absolument gigantesques par ce fameux candidat qui avait retrouvé la baguette magique, le président de la République qui avait retrouvé la baguette magique de la croissance. Donc il y a forcément un impact qui est un peu plus délié entre le chômage et la croissance aujourd'hui. Finalement, ça va quand même finir par se retrouver à un moment dans le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, la consommation est en train, c'est la consommation qui porte beaucoup ce phénomène-là, pour l'essentiel. Un petit peu d'exportation, un petit peu d'investissement, mais quand même beaucoup de consommation.
J'ai lu une chose, arrêtez-moi si je me trompe, mais il paraît qu'en période électorale, les Français consomment beaucoup. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que, alors, je disais ça, c'est un article.
C'est curieux parce que les commerçants vous disent le contraire.
Ah oui, mais bon.
les Français ont beaucoup consommé cette année pour plusieurs raisons. Faut pas oublier qu'on est sur un cycle long où il y a eu quand même une baisse de l'euro assez forte, il y a une baisse du pétrole assez forte. Et tous ces phénomènes-là ont contribué à nourrir cette croissance. Et la croissance, ça joue pas au mois le mois. C'est des phénomènes qui sont quand même de longue durée. Aujourd'hui, ce qui se passe, et là où c'est plutôt bon signe, c'est qu'au-delà de la consommation des ménages français, la croissance repart un petit peu grâce aux exportations, des entreprises françaises qui arrivent à vendre des produits hors de France, qui est quand même l'essentiel de la création de richesse. Et puis de l'autre côté, des entreprises françaises qui commencent à investir pour racheter des machines, racheter des logiciels, racheter des choses qui vont permettre de nourrir la croissance. Et donc, ça, c'est l'effet. Et cet effet-là, il n'est pas dû à François Hollande. Cet effet-là, il est essentiellement dû à Macron. C'est un effet de confiance. Quand on fait ça, on a confiance dans l'avenir.
Jordan Bardella, qu'est-ce que vous pensez du slogan justement d'Emmanuel Macron la semaine dernière, la France est de retour?
Donc c'est de la com. Donc c'est plutôt bien fait puisque ça a marché pendant l'élection présidentielle. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on vit pas dans le même monde. C'est-à-dire que pour moi, je veux dire, oui, le PIB augmente, mais c'est un chiffre en réalité.
C'est pas une application concrète en fait, c'est ça.
Écoutez, moi, ce que je regarde et ce que les Français voient au quotidien, c'est que depuis le 1er janvier, les impôts ont augmenté de 4,5 milliards, qu'un certain nombre de taxes ont été créées. Qu'ils payent plus cher lorsqu'ils vont faire le plein de leur voiture, que le contrôle technique a augmenté de 20%, que la CSG augmente. On parlait des retraités tout à l'heure. Ils ont été affectés en plus d'avoir déjà des retraites relativement faibles. On voit que le chômage continue d'augmenter. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on maquille tout ça par des effets de deux chiffres, mais en réalité, les Français ne la voient pas.
Il y a quand même des impôts qui ont été supprimés. Il y a le RSI qui a été supprimé. Il y a un certain nombre de...
Oui, d'accord. Et pendant ce temps-là, on poursuit le matraquage, par exemple, des automobilistes. en même temps la loi travail qui a été un peu l'effet de com, je vois bien que ça vous agace, mais je veux dire, c'est la réalité.
Vous avez un discours qui a les chiffres officiels.
Permettez-moi, je vous ai laissé terminer. La loi travail, quand même, il faut quand même que les Français le sachent. Nous, on en a largement parlé pendant la campagne présidentielle, mais elle va permettre, par exemple, à des grands groupes comme PSA ou comme Carrefour d'organiser des licenciements massifs via les nouvelles ordonnances. Donc, je veux dire, c'est ça la réalité de la politique de monsieur Macron. Moi, je veux bien qu'on maquille ça par des effets de com, par des effets de chiffres, en nous expliquant que la courbe de la croissance va peut-être augmenter, mais concrètement, dans la rue et au quotidien, les Français voient les impôts augmenter et voient, par exemple, sur la simple question des automobilistes, là encore, les prix s'élever.
Ce qu'on va faire dans un instant, vous allez pouvoir répondre, Robert Lagatour, parce que je voyais un petit peu vous énerver. Non, mais vous allez pouvoir, on va continuer à en parler. Et puis, on parlera également aussi un peu de politique et du côté de ce qui se passe au Front National. On parlera également un peu du président américain. Ce soir, c'est son grand discours. Voilà la suite du programme chargé en ce début de semaine pour les informés de France Info.
Venez admirer les visiteurs de Versailles. Une exposition inédite du château de Versailles avec France Info. De Louis XIV à la Révolution, plus de 300 œuvres pour percer le regard des courtisans, ambassadeurs étrangers et voyageurs d'un jour. Des visiteurs venus eux aussi à l'époque s'inspirer et admirer les splendeurs de Versailles. Visiteurs de Versailles, au château de Versailles, actuellement, à retrouver sur France Info. Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo avec les agences meilleurtaux.com, crédit immobilier, assurance de prêt, 260 agences meilleurtaux.com à vos côtés partout en France.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Nouvelle perturbation pour demain. Le matin, on la retrouvera sur les régions du Nord avec des pluies d'abord éparses et puis plus marquées entre la Manche et le nord de la Seine. On aura du vent jusqu'à 70-80 km à l'heure. L'après-midi, les pluies seront parfois soutenues entre le centre, la région parisienne, les Ardennes et la Lorraine. Attention, ces pluies pourraient contrarier les décrues amorcées. On attend encore des débordements importants sur le bassin de la Seine et sur la Saône. Ça s'arrangera près de la Manche l'après-midi. Retour de petites éclaircies, encore des averses. Sur le sud-ouest, il faudra composer avec la grisaille, elle laissera passer quelques éclaircies l'après-midi. Et puis sur les Pyrénées, le sud-est, l'Auvergne, Rhône-Alpes et le Jura, ce sera bien ensoleillé. Un peu de grisaille malgré tout le matin dans les vallées et sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Il fera 0 à 6 degrés au sud et à l'est le matin, 8 à 11 vers le nord-ouest et le nord. L'après-midi, 8 à 11 degrés au nord et 10 à 15 au sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Hugo Charpentier, bonsoir.
Bonsoir. Après 36 heures de garde à vue, Jonathan Daval passe aux aveux. L'informaticien de 34 ans qui avait jusqu'à présent nié toute implication dans le décès de son épouse, dont le corps a été retrouvé fin octobre dans un bois de Haute-Saône, a avoué ce soir aux enquêteurs l'avoir tué par accident. Les précisions à Besançon de David Di Giacomo.
C'est un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a tué son épouse par accident. Ce sont les mots ce soir de son avocat pour expliquer son geste et ses aveux en garde à vue. Le trentenaire a bien étranglé Alexia Daval dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, selon son avocat. Il était à bout, ajoute son défenseur. Il fallait que ça sorte, il est dévasté. C'est un garçon qui a pensé au suicide. Un point reste encore toutefois à éclaircir. Jonathan Daval affirme n'avoir jamais essayé de mettre le feu au corps d'Alexia. Il ne fournit aucune explication à ce sujet, selon son avocat. Jonathan et Alexia Daval vivaient une relation de couple avec de très fortes tensions. À un moment, il y a eu des mots de trop qu'il n'a pas su gérer. Jonathan Daval doit maintenant être présenté à un juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue. Avec, et à la suite de cette présentation, une mise en examen.
David Di Giacomo pour France Info. Et ce soir, la procureure de la République de Besançon doit s'exprimer tout à l'heure aux alentours de 21h30. 3 ans après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère à Paris, on apprend ce soir que 4 personnes âgées de 30 à 36 ans ont été placées en garde à vue. Des interpellations dans le cadre de l'enquête sur la fourniture des armes utilisées par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. La mairie de Marseille perquisitionnait aujourd'hui des investigations menées dans le cadre cadre d'une enquête du parquet national financier sur le temps de travail des employés municipaux du SAMU social. Un certain nombre d'entre eux sont soupçonnés d'avoir gonflé leur nombre d'heures via un système de faux pointage. Un système qui permettait aux employés de ne travailler qu'une semaine sur deux, soit 10 à 12 jours par mois. À Washington, Donald Trump s'apprête à prononcer son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès américain. Séquence traditionnelle de la vie politique américaine destinée à évoquer notamment le bilan de l'année écoulée et à brosser la politique que le président entend mener pour les mois à venir. Et comme c'est la tradition, l'opposition a aussi le droit à son temps de parole. Et cette année, c'est un jeune représentant au nom célèbre qui portera la réponse démocrate au discours présidentiel. Il s'agit de John Kennedy, le petit-neveu du président JFK. Du sport, ce soir, du football, demi-finale de la Coupe de la Ligue. Rennes reçoit le Paris Saint-Germain au Roazhon Park. Coup d'envoi à 21h05, donc dans un peu moins d'une demi-heure. 20h, bientôt 33 sur France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont aussi émus devant l'actualité que Pascal Obispo dans The Voice. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'économiste Robin Rivaton, Sybille Vincendon de Libération, Vincent Trémollet du Figaro et Jordan Bardella, porte-parole du Front National. Nous sommes en train de parler du retour de la croissance depuis le temps qu'on en parle, 1,9%. Robin Rivaton, vous vouliez juste réagir sur ce que disait
J'ai relevé depuis tout à l'heure propagande, manipulation et faux chiffres. Et ben je suis désolé, cette idée-là qu'on fait croire.
Oh non, les chiffres d'augmentation d'impôts sont vrais, vous inquiétez pas.
Cette idée de faire croire qu'il y a des faux chiffres, c'est une idée absolument insupportable.
J'ai jamais dit qu'il y avait des faux chiffres, monsieur.
Non, mais vous avez dit manipulation, propagande, ça veut dire quoi? Les mots ont un sens. Vous pouvez pas utiliser des mots qui essayent de mettre
monsieur,
mal.
J'utilise les mots que je veux. Ce que je vous dis, c'est que monsieur Macron fait de la com depuis le début du quinquennat, que la réalité de l'augmentation des 4,5 milliards d'impôts, elle est là et elle est claire.
Vous avez des mots. Vous avez des mots qui sous-tend de la thèse complotiste, encore une fois. Quand les Français ont 2% de dépenses de la consommation supplémentaire, c'est hors impôt. Donc ça veut dire que la consommation générale de tous les gens qui sont dans le pays a augmenté de 2%. Cette consommation-là, ce n'est pas un chiffre qui n'est pas irréel, qui n'existe pas. Ce chiffre-là est réel, c'est que la consommation a augmenté dans le pays. Donc arrêtons tout d'un coup de passer dans ce délire de dire que c'est de la propagande, de la manipulation. L'INSEE fait des chiffres qui sont assumés, vérifiés depuis des années. Et quand la croissance est là, elle est là. Quand elle n'est pas là, vous êtes suffisamment nombreux à vous réjouir qu'elle soit pas là. Quand elle est là, au moins reconnaissez qu'elle est là.
Le matraquage des automobilistes, l'augmentation de la CSG, l'augmentation des impôts. Effectivement, c'est de la propagande. Je pense que les Français feront bien la différence entre vos propos et les miens.
C'est exactement le problème qu'on a quand on entend ce monsieur, c'est qu'il mélange les choux et les carottes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 2% de croissance et j'ignorais l'histoire des 40% d'augmentation du prix du contrôle technique automobile.
20%, madame.
Ah, c'était 40 il y a 5 minutes.
Oui, bon. Non, c'était 20, j'ai peut-être fait une erreur, autant pour moi, c'est 20%.
Ah, bah, mais même 20%, c'est remarquable.
C'est les chiffres,
et je
madame.
Je trouve que le mélange de données qui sont macroéconomiques, qui ont des chiffres, qui sont effectivement les chiffres que fournit l'INSEE. On peut dire ce qu'on veut sur l'INSEE, mais quand même. Et d'un autre côté, le matraquage, entre guillemets, des automobilistes, il ne faut pas exagérer, quoi.
C'est pas un débat.
Si
on avance un peu.
Juste une chose, voilà.
Avançons un peu, comme dit Vincent.
Il y a différentes études qui montrent que le retour de la croissance, on l'a vu au moment, notamment c'est Oxfam qui avait publié ça, profite aux plus riches aujourd'hui. Est-ce que ça sera le cas en France également?
Vous êtes dans le complotisme, là, peut-être.
Mais non.
Il va falloir, et ça sera l'an 2 du macronisme, et c'est là, au fait, le moment de vérité pour lui. Il s'est attaqué à juste titre à la fiscalité du capital. Et les ménages, et notamment les classes moyennes, n'ont pas pour l'instant profité des baisses d'impôts. Et les automobilistes ont été plus taxés que les autres. Mais avec la promesse de baisses à venir. Mais pour cela, il faudrait quand même songer à réduire un tout petit peu les dépenses publiques. Parce que le problème devant lequel on est, c'est que quand on a de la croissance en France, on appelait ça la cagnotte, je crois que c'était Jacques Chirac, et on se dit, il n'y a plus rien à faire dans la réforme de l'État, il n'y a plus rien à faire sur le millefeuille territorial, il n'y a plus rien à faire avec cette fonction publique pléthorique. Et si on fait ça, eh ben on ne baissera pas les impôts sur les classes moyennes, et c'est elle qui, à terme, se fera voir. Je pense qu'Emmanuel Macron en est conscient sur le plan politique, parce qu'électoralement, c'est les gens qui ont voté pour lui. Donc là, il a demandé un effort pour cette année, comme il avait fait au début pour les militaires. Après, il a donné. Il va falloir qu'il donne, parce que sinon, si je peux dire, il le paiera.
Ouais, Sybille Vincendon, on est justement dans cette optique-là. Il y a aussi un choix politique de dire que on a beaucoup parlé, président des riches, etc., d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est ça? Est-ce que cette croissance, elle bénéficie finalement aussi aux plus riches en France?
C'est le problème qu'il a pour le moment, c'est que effectivement, il faut qu'il se dégage de cette histoire de président des riches. Donc, il faut qu'il passe sa deuxième étape. Et là, ça va être un peu plus compliqué, parce que malgré tout, les classes moyennes, quand on parle de la fonction publique pléthorique, il y a là où les classes moyennes touchent du doigt, si j'ose dire, la fonction publique, c'est à l'école, c'est à l'hôpital, c'est évidemment dans la sécurité, les flics,
non, mais il y a des domaines sur lesquels...
Et là, ils ont le sentiment que c'est difficile de... Oui, peut-être, mais ils ont le sentiment que c'est difficile d'aller couper là. Et donc ça,
j'en suis pas convaincu. Si vous voulez, on invoque le modèle social français à juste titre dans son principe,
mais
dans son exercice, la pratique du modèle social français dans un certain nombre d'institutions, cette pratique fait parfois la preuve de son impuissance, de ses défaillances, et même ceux qui y travaillent, ils sont malheureux en se disant je ne peux pas y évoluer, etc. Donc il y a une réflexion à mener sur les collectivités territoriales, sur le millefeuille territorial, sur le périmètre de l'État. Moi, je pense que ce qui est régalien, il ne faut pas y toucher parce que la sécurité est importante, mais il y a d'autres domaines où on peut faire des économies et des économies importantes.
C'est déjà le cas, mais alors juste une chose, par exemple, on le voit au niveau de l'État, il y a une diminution du nombre de membres de cabinet, par exemple, et on peut voir aussi que ça peut faire quelques bêtises auprès des ministres, parce que les fiches ne sont plus faites.
Non, mais c'est très démagogique quand même.
C'est la ville de Bordeaux, il y a 600 000 élus en France, il y a peut-être des économies qu'on peut faire aussi.
Oui, alors, Romain Rivaton, et après Jean de Bordel.
Oui, non, mais la question que posait Vincent Trémollet est la bonne. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, cette croissance assez forte suscite une assez forte croissance des recettes pour l'État, et donc il n'y a pas besoin de beaucoup forcer pour atteindre ces fameux 3%, dans la courbe un peu 2,6% de déficit public chaque année. Donc, malgré cette croissance forte, l'État continue de s'endetter. Et donc, il s'endette assez fortement. Et donc, la question qu'on a aujourd'hui devant nous, c'est que dans cette période de vache grasse, disons, est-ce que l'État ne doit pas justement prendre les choses par ce que ferait un ménage, c'est-à-dire que constituer plutôt une épargne, constituer plutôt une réserve de précaution pour se dire que peut-être demain, dans un cycle où les choses peuvent aussi moins bien aller, peut-être avant même l'élection présidentielle de 2022, est-ce que quand les choses iront moins bien, est-ce qu'il ne sera pas là temps de pouvoir relâcher un peu du lest? Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec ce budget qui a été présenté et ce qui a été fait, c'est que la question de la dépense publique et de la dette publique n'est pas une priorité encore aujourd'hui clairement affichée. Et pourtant, elle devrait.
Jordan Bardella.
Non, mais qu'il y ait des économies à faire, ça me paraît une évidence aujourd'hui sur ce que j'appelle les mauvaises dépenses de l'État. Je pense à, je vois par exemple le budget de l'immigration qui a augmenté dans le budget. Je pense à l'aide médicale d'État. Je pense au coût de la décentralisation, par exemple, qui est un véritable poids pour l'État. Maintenant, il m'apparaît aujourd'hui totalement aberrant d'aller couper dans les missions régaliennes de l'État. Je pense au contraire que la police, que la santé, que les missions de sécurité d'une manière plus générale avec les missions régaliennes devraient avoir beaucoup plus de moyens pour fonctionner. Il y a un problème d'effectifs, mais il y a aussi un problème de matériel dans ces domaines.
Allez, on va dans un instant parler de politique et notamment du Front National. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Il dit que c'est un accident. Jonathan Daval avoue le meurtre de son épouse Alexia. Le corps de la jeune femme avait été retrouvé fin octobre dans un bois de Haute-Saône. L'épilogue ce soir de la garde à vue de près de 36 heures de cet informaticien de 34 ans à Besançon. Il va être présenté à un juge pour sa mise en examen ce soir. Quatre suspects interpellés dans le cadre des attentats de janvier 2015 à Paris. 12 morts dans les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Ces hommes de 30 à 36 ans doivent préciser depuis hier leur rôle dans la fourniture des armes utilisées par les frères Kouachi, également Koulibaly. La croissance de la France est au plus haut depuis 2011, 1,9% en 2017. C'est une nette accélération sur ces trois dernières années. Michel Sapin, ancien ministre socialiste de l'économie et des finances, le dit sur France Info. Les mesures prises pendant le quinquennat de François Hollande ont porté leurs fruits. La Turquie intensifie ses frappes sur Afrin, l'enclave kurde au nord de la Syrie. Plusieurs raids aériens aujourd'hui encore et de violents combats ont été menés aux frontières. Elle n'a pas bougé depuis hier. La carte des 12 départements français confrontés aux inondations. 12 départements en vigilance orange, de la Seine-Maritime à l'Aube et la Marne, avec toute la région parisienne au milieu. À Paris, la Seine décroît lentement à 5,74 m aujourd'hui. Vigilance orange également pour le département de la Saône-et-Loire.
France Info.
20h, 21h. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va parler un peu de politique, puisque vous savez, Marine Le Pen, c'est un petit peu comme le tire-bouchon au début de soirée, vous savez qu'il est quelque part, mais où ? Impossible à trouver. Hein. Les semaines passent, bah ça arrive, vous savez, c'est important hein, dans la culture française, le tire-bouchon.
C'est pas très élégant, mais...
Pourquoi ? Un tire-bouchon, c'est important.
Pas très élégant.
Dans la culture française, c'est bien.
Oui, d'accord, mais à l'heure de la société des juges, je pense qu'on aurait pu vous prêter un certain nombre de... Je sais pas, peut-être de misogynie ou de
misogynie.
Ou de sexisme. Bah oui, vous savez, dans cette société des juges, on peut plus dire grand chose.
Bon, d'accord. Bah moi, je le dis en tout cas.
Ça fait partie de votre liberté.
Si Marine Le Pen, en tout cas, veut boire un verre, en tout cas, voilà, le fait. Hein. Donc les semaines passent et malgré ces différentes interventions, ces différentes interviews, c'est comme si la patronne du Front National n'arrivait pas à sortir du brouillard. En fait, à la même période l'année dernière, elle était la femme qui attirait toutes les attentions puisqu'elle était pratiquement sûre de figurer au second tour de la présidentielle. Depuis, les députés frontistes sont discrets. Des interrogations naissent en interne sur la ligne euro. Ou pas euro. Et puis ce changement de nom qui devrait intervenir après le congrès du mois de mars. Et puis ses scores aussi aux législatives partielles. Bref, le Front National n'est pas en grande forme et le dirigeant des Patriotes ne voit pas un grand avenir à ce parti qu'il connaît un tout petit peu, Florian Philippot.
Le Front National, il est en train de décliner. Ça c'est bon, les résultats hier l'ont montré. Il s'effondre littéralement. Il passe de 17,5 à 7% depuis juin dernier, alors que juin déjà n'était pas un très bon cru. Mais moi, je suis pas là pour remplacer le Front National. Je pense que ce parti disparaîtra de lui-même parce qu'il n'a pas d'utilité et qu'il a fait le choix d'un retour en arrière. Voilà, depuis quelques mois.
Voilà, Florent Philippot hier donc sur Europe 1. Alors, il parlait des élections, Florent Philippot partielles. Ils sont tenues notamment à Belfort. 7,5 points de moins en juin pour le Front National. 2% pour les Patriotes, hein, son parti. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit justement Florent Philippot, que le Front National est amené à disparaître ?
Je trouve que c'est particulièrement gonflé de sa part. Moi, si vous voulez, d'une manière générale, je trouve que c'est un petit peu hérissant de mettre sur le même plan. Si vous voulez, c'est un peu la petite musique qu'on entend en ce moment. Je veux dire, c'est pas un match PSG-OM, quoi. Je veux dire, on peut pas mettre au même plan un parti politique qui était longtemps le premier parti de France, qui a été au second tour de l'élection présidentielle, qui a recueilli 11 millions de voix, et puis un groupuscule qui est sous perfusion médiatique et qui est voué à disparaître. Enfin, je veux dire, on l'a vu très clairement dans ces élections partielles. Les Patriotes ont été totalement balayés. Derrière même le parti de la France, le parti d'extrême droite de Carlang dans le Val d'Oise, à peine 2%, donc je veux dire, voilà, c'est réglé, nous on avance. Je crois que le Front National est un parti d'avenir, encore une fois, pour la simple et bonne raison que c'est ma conviction, nos idées sont majoritaires dans le pays, peut-être que notre structure ne l'est pas et qu'elle suscite encore un certain nombre de craintes. C'est tout l'objet de la refondation qui a été lancée par Marine Le Pen, c'est aussi, nous avons aussi en ligne de mire, en réflexion des éventuelles alliances que nous allons pouvoir constituer dans le cadre des élections européennes et des élections municipales de 2019 et 2021.
Des alliances avec qui ? Debout la France ?
Mais par exemple, mais aussi avec d'autres. Hein. Moi je pense que le Front doit devenir une structure beaucoup plus souple et qu'en fait le parti Front National doit muter en un mouvement, une plateforme de rassemblement. Macron l'a fait avec le courant d'idées qui est le sien. Je pense que nous devons maintenant faire l'analogue de La République En Marche en réalité.
Vincent Trémollet.
Alors moi je me lance hein, parce allez-y, que le Front National, on a annoncé la mort du Front National très très souvent. Je m'en souviens, en 1986, un éditorialiste célèbre avait dit ça, disant c'est un feu de paille, ça durera 2 ans. Mais là il me semble que le Front National est un astre mort. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu ses deux fonctions. La première, c'est la fonction tribunicienne, c'est-à-dire que il y avait un chef qui disait des choses qui plaisaient à ses électeurs et qui pouvait dire le système est inéquitable avec moi. Et donc, le jour où je pourrais m'exprimer vraiment, je gagnerais. Et ce chef s'est trouvé dans un débat absolument équitable avec Emmanuel Macron et s'est fait laminer. Mmh. Et donc, les électeurs ont compris que cette fonction tribunicienne ne serait plus tenue. Le deuxième élément, c'est l'immigration. Le Front National a prospéré électoralement sur l'immigration. Or, aujourd'hui, le sujet de l'immigration est traité par Laurent Wauquiez, mais même par Gérard Collomb. Et il y a dans la société française une évolution sur ce sujet qui fait que le Front National est condamné à une surenchère qui, à mon avis, ne sera pas efficace et qui n'est pas, opérante. Donc je ne vois pas comment, la structure qui existe maintenant, avec le chef qui existe maintenant, le Front National peut renaître. Je pense qu'il va décliner très très longtemps.
Jordan Bardella,
si vous dites que M. Collomb met en pratique les propositions du Front National, enfin moi je suis assez surpris.
Non, je dis pas ça.
Je comprends bien votre message, mais je veux dire, moi derrière les mots d'Emmanuel Macron sur l'immigration, derrière ces mots un peu de fermeté, j'écoutais d'ailleurs son discours à Calais, il y a une réalité, c'est que le budget, par exemple, de l'immigration augmente de 280 millions sur l'année l'année 2018.
Je serais curieuse de savoir ce que vous appelez le budget de l'immigration.
Permettez-moi, que les crédits alloués à la lutte contre l'immigration clandestine diminuent, que l'aide médicale d'État augmente, que le nombre de demandes d'asile, le nombre de demandes d'asile a explosé dans notre pays, la barre des 100 000 a été franchie. Enfin, je veux dire, je vois pas où est-ce que le problème de l'immigration aujourd'hui est réglé dans notre pays.
Alors, et puis derrière, je vous repose ma question. Qu'est-ce que vous appelez le budget de l'immigration
sur l'islamisme? Alors, le budget dédié à l'accueil des migrants, plus 280 millions sur le projet de loi de finances.
Je précise juste que demandeur d'asile, ça ne veut pas dire qu'on devient français. Quand on fait une demande, hein, voilà, on le sait très bien.
Oui, d'accord. Enfin, 96% des déboutés du droit d'asile ne sont pas reconduits à la frontière, c'est chez la
Convention. Je n'ai jamais dit ce que vous dites que j'ai dit. J'ai simplement dit que l'immigration était un sujet abandonné par un certain nombre de partis au Front National et que le Front National a prospéré là-dessus. Et qu'il se trouve que le ministre de l'Intérieur, qui était le maire socialiste de Lyon, s'est emparé de ce sujet à tel point qu'une partie de la gauche associative l'accuse en disant qu'il va plus loin que Nicolas Sarkozy. Mmh. Je pense que pour vous, électoralement, c'est
pas
très
bon. Il a annoncé un élargissement des conditions du regroupement familial. Donc, selon moi, c'est de la communication. Mais après, il n'y a pas que la question de l'immigration. Il y a la question de l'Europe qui est fondamentale. Alors, la souveraineté, la question des petites retraites, des petits salaires. Toutes ces questions aussi dont nous parlons assez largement.
Romain Baton, quand vous entendez justement ça, on parle de l'immigration. Migration, Gérard Collomb, on parle en effet pour vous, aujourd'hui le Front National, on se souvient en effet Marine Le Pen, au second tour face à Emmanuel Macron, 11 millions de voix. Pour vous c'est vrai, est-ce qu'il y a un coche qui a été raté? Il y a un côté aujourd'hui on a l'impression que ça n'imprime plus vraiment?
Une difficulté aujourd'hui c'est sûr à peser les débats ou à créer les débats. C'est vrai que,
je vous en prie. C'est le débat.
Voilà la question de l'immigration, effectivement. La société s'est considérablement durcie. Et donc, sur l'immigration légale, il y a une volonté de resserrement qui apparaît. Alors après, vous pouvez ne pas la juger suffisamment.
C'est les chiffres qui ont été donnés par le ministère.
Suffisante, mais bon, en tout cas, elle apparaît de plus en plus et elle se traduit dans l'ensemble du corps électoral. Donc, une fois qu'on a l'immigration légale à zéro, qu'est-ce qui reste comme autre solution? Les autres solutions sont des propositions qui, de toute façon, paraissent tellement extrêmes qu'elles ne se pourront pas être appliquées. Donc après, sur la question de l'Europe, on voit bien que c'est plus un sujet aujourd'hui qui est tellement d'actualité, et sur la question sociale, la ligne qui a été longuement mise en débat entre la ligne dite Philippot, qui était pour une action très forte sur les catégories les plus populaires socialement parlant, a pas été forcément reprise par Marine Le Pen. Et aujourd'hui, on a une sorte de brouillage sur cette question sociale, avec quelle est la cible sociale qui est visée aujourd'hui par le Front National. Est-ce que c'est avec un discours très fort sur le pouvoir d'achat? Est-ce que voilà? Et ça, cette question-là aujourd'hui ne sont pas tranchées.
J'ai une question. Excusez-moi, Vincent, Jean Bardella, ça paraît assez étonnant parce que vous des européennes, c'est les prochaines élections en 2019, et Marine Le Pen a indiqué qu'elle ne conduirait pas la liste Front National aux élections européennes. C'est la première fois dans l'histoire du Front National qu'un Le Pen ne conduit pas une liste nationale. Ça veut dire quoi? Que c'est Marine Le Pen est un repoussoir?
Non, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de talents au sein du Front National, autre que la présidente du mouvement. Ça veut dire que Marine Le Pen a été élue députée nationale et qu'elle ne souhaite pas quitter l'Assemblée nationale pour mener ce combat à l'Europe qu'elle a mené pendant un certain nombre de temps.
C'est un symbole aussi quand même pour les électeurs de voir
Oui, mais c'est aussi un message d'ouverture. Je crois que c'est une stratégie d'ouverture qui est assumée. Nous sommes en discussion avec un certain nombre de personnalités extérieures au Front National. Ne me demandez pas qui, je ne vous le dirai pas. Mais nous avons j'attendais la question. Évidemment, en ligne de mire ces élections, et moi je pense que nous pouvons gagner ces élections européennes, et j'espère que nous les gagnons. Nous ferons tout pour, en l'occurrence. En 2014, nous avons gagné ces européennes sur un message très clair, qui était non à Bruxelles, oui à la France. Je crois que le souverainisme et le patriotisme est une idée majoritaire dans le pays, et qu'il faut que nous soyons encore une fois très clairs sur cette question.
Avec une majorité d'abstention aussi, vous savez.
Oui, c'est vrai, certes, mais c'est à nous aussi de faire ce travail. Mais je ne crois pas du tout que le Front est mort. Ça fait des années qu'on nous explique tous les 10 ans que le Front National est mort. Or, le Front National a obtenu au second tour de la présidentielle un nombre de voix inédit, son solde absolu, 11 millions.
On y revient dans un instant avec vous, Vincent Trémollet. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
La procureure de Besançon doit donner une conférence de presse d'ici quelques minutes. La suite des aveux de Jonathan Daval. L'homme a reconnu ce soir avoir étranglé son épouse Alexia à la suite d'une dispute, mais sans l'intention de la tuer. Son corps avait été retrouvé dans une forêt en octobre dernier. Un garçon de 8 ans portant une kippa agressé hier à Sarcelles en région parisienne sans mobile apparent, et la police retient la piste de l'acte antisémite. Le jeune a été roué de coups par deux adolescents de 15 ans alors qu'il se rendait à un cours de soutien scolaire. colère. 17 000 signalements d'effets indésirables au lévothyrox. Cela représente 0,75% des malades de la thyroïde traités avec la nouvelle formule du médicament. C'est le constat aujourd'hui d'un deuxième rapport public édité. Ses rédacteurs considèrent que les effets indésirables rapportés sont identiques à ceux déjà connus avec l'ancienne formule du médicament et aucun d'entre eux n'est spécifique à la nouvelle formule. L'investiture de Carles Puigdemont, ajournée par le Parlement catalan, car il reste à Bruxelles. Séance repoussée mais pas annulée. Le gouvernement de Madrid tente toujours de bloquer cette élection. Le président de cette assemblée à Barcelone ajoute que le seul candidat acceptable reste bien Puigdemont. Et puis du football, Rennes face au PSG. Les Bretons accueillent les Parisiens en demi-finale de la Coupe de la Ligue à partir de 21h05.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va juste parler un petit peu d'international, parce que cette nuit, il y a un événement, hein, ce n'est pas encore le Super Bowl, non, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, aux États-Unis, il y a le numéro 2 du FBI qui a été, qui est parti, hein, parce que, tout simplement, comme tous les jours chez Donald Trump, il se passe des choses dans le sein d'Amérique, mais aucune nouvelle d'ailleurs de ce limogeage sur Twitter, puisque le président américain était assez occupé aujourd'hui à se clasher avec Jay-Z. Voilà, on a des priorités. Donc, ce soir, c'est une big night, hein, puisque c'est le discours de l'Union, une institution de l'autre côté de l'Atlantique, où le président présente son programme pour l'année à venir devant le Congrès réuni au complet, une sorte de galette des rois, mais on sait déjà qu'il y a la fève. Avec Donald Trump, on peut s'attendre à tout, mais son dernier discours à Davos l'a présenté moins agressif, presque classique, une façade pour celui qui portera la contradiction au nom des démocrates. Vous allez voir, son nom vous dit quelque chose, c'est un élu du Massachusetts, il s'appelle Joseph Kennedy.
La crédibilité du président et de son administration est affectée non seulement auprès du Congrès, mais aussi auprès du peuple américain. Comment peut-on croire le président sur parole quand ce qu'il raconte est incompréhensible? La parole présidentielle a aujourd'hui perdu de sa valeur. Vous ne pouvez pas compter dessus. Il formule des accusations sérieuses sans aucune preuve pour les soutenir.
Voilà, Joseph Kennedy, même le troisième. Alors je vous dis juste, c'est parce qu'en fait, c'est le petit-fils de Robert Kennedy et le petit-neveu de JFK qui reprend donc la suite de la famille Kennedy. Vincent Trémollet, la semaine dernière à Davos, Donald Trump a expliqué l'Amérique d'abord, que c'était pas l'Amérique seule. Il a changé.
C'est compliqué ce mandat à analyser, c'est déroutant parce qu'il y aurait une facilité. Certains y cèdent. Bon, c'est de dire il est complètement idiot, il ira pas jusqu'au bout. Bon, mais on gagne pas la présidentielle, c'est complètement idiot. Et depuis un an, il arrive à faire des choses. En même temps, il donne l'impression de vouloir ressembler à la pire des caricatures qu'on fait de lui. On a l'impression qu'il est dans l'opposition alors qu'il gouverne. Mais il a une pratique d'opposition radicale alors qu'il est le patron de la Maison-Blanche.
Il est toujours en campagne, en fait.
Alors, est-ce qu'il fait ça parce que ça plaît à son électorat, pour le maintenir? Mais il y a dans ce double jeu des tweets absurdes, des provocations, une espèce de vulgarité assumée du fait qu'il incarne en rien une fonction présidentielle. Et puis, ce qui se passe derrière, dans le back-office, où là, en fait, il y a une politique qui est menée, quelque chose que moi, pour l'instant, j'arrive pas à percer. Enfin, voilà.
Sybille Vincent, donc.
Oui, ce qui est frappant quand même, c'est que dans le back-office, il y a aussi un turnover infernal.
Oui, ça n'arrête pas.
Et que, en fait, les questions que se pose la presse américaine ou que se posent les politiques américains qui parlent à la presse, c'est des questions de, comment ils appellent ça, de surveillance adulte. C'est-à-dire exactement les questions qu'on se pose à l'égard d'un enfant. Et ce qui s'est passé à Davos, c'est, à mon avis, il était, mais incroyablement sous contrôle, parce que le naturel va revenir.
C'est aussi un chef d'entreprise, donc il sait aussi, non, peut-être parler.
C'est un chef d'entreprise qui n'a fait prospérer que son nom. Et toutes les entreprises de vraie économie qu'il a entreprises, les casinos, les hôtels, tout ça a fait faillite. Donc ce n'est pas un chef d'entreprise.
Oui, mais il était considéré comme un gagnant par l'Amérique.
Robert Rivaton.
Alors moi, je me range un peu à l'avis de Vincent Trémollet, c'est que la solution de facilité de dire qu'il est fou ou sous surveillance
est une grave erreur. Oui.
C'est quelqu'un qui a été peut-être un assez mauvais chef d'entreprise, il a été un très dur négociateur. Quand il a eu des négociations à faire, il a toujours souvent sorti à la tête de l'eau des négociations. Parce qu'il a beaucoup planté d'entreprises, mais il a quand même réussi à s'en sortir. Donc en général, c'est qu'on négocie bien dans ces cas-là, notamment avec ses banquiers. Et il a une stratégie quand même qui permet de faire avancer quelques sujets. Alors pas tout son agenda, mais une grande partie de son agenda était assez flou en réalité. Donc personne ne savait réellement ses motivations. Sur ce qui est le plan de l'économie américaine, il a fait passer un acte, une loi très considérable, qui renforce très considérablement la prédominance des grands acteurs de la tech américaine, qui assurent en tout cas l'avenir de l'ensemble de l'économie américaine. Il a tenu des propos cette semaine sur le protectionnisme et sur la faiblesse du dollar, via son secrétaire au Trésor, mitigés comme d'habitude, mais qui permettent de maintenir sous tension l'ensemble des acteurs et qui poussent la Chine à faire elle-même des réformes pour moins exporter vers les États-Unis. Donc, à la fin des fins, son objectif qui est de réduire le déficit commercial américain, il est en progression dessus. Et donc, on voit que malgré ce parcours très brouillé ou très compliqué à définir, on voit quand même qu'il y a des axes qui quand même
Jordan Bardella, c'est toujours une référence pour vous, Trump,
ça n'a jamais été une référence, mais nous avions dit qu'entre Clinton et Trump, il fallait choisir le moins pire pour la France et pour les Indes. Intérêts nationaux, et je pense que notamment sur la simple question du TAFTA et du traité transatlantique, il était préférable que Trump l'emporte face à Clinton, qui portait une vision peut-être plus belliqueuse de la politique internationale. Moi, je suis pas du tout sur cette vision psychanalyse du pathos, ouais, qui vise systématiquement à l'étudier, à le faire passer pour un dingue comme si on était au zoo. Je pense qu'il faut le juger sur ses faits. Je pense qu'il joue aussi de son style et de sa forme, sur lequel il a longtemps été caricaturé d'ailleurs, et je préfère moi qu'il soit jugé sur ses actes. En tout cas, c'est là-dessus que nous allons regarder. Simplement, sur la réforme fiscale qu'il a mis en œuvre, il y a comme une baisse d'impôts assez significatif pour les ménages. Alors effectivement, il y a des compensations, mais des baisses d'impôts significatives pour les ménages, pour les entreprises et notamment aussi pour les auto-entrepreneurs.
Mais reste un mystère quand même, c'est cet acharnement
et il a eu
à être absurde, à être caricatural.
Oui, mais il a eu un discours effectivement assez protecteur. Enfin, je veux dire, moi, je préfère entendre un discours protecteur qu'un discours de mondialisation heureuse à la Macron ou à la Merkel.
Ça doit finir. Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'être passé ce soir aux Informés de France Info.
Avec grand plaisir.
Merci, Robin Ribaton. Sylvie de Vincent, dont la une de Libération, demain. Si ça vous vient, en attendant, Vincent Trébolet, Figaro.
Alors, c'est réconcilier les parents et les professeurs.
Très bien, à trouver pour le Figaro. Et Sylvie Vincendon, on trouvera donc sur le site internet dans quelques heures, en tout cas, dans Libération. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Tout est politique au programme ce soir.
Eh bien, nous serons ce soir en direct de la conférence de presse de la procureure de la République de Besançon, avec également de la politique au menu, avec nos invités Nicolas Bay, le vice-président du Front National, avec Laurent Saillet, la porte-parole des Républicains, avec notre expert Arnaud Benedetti et avec Gilles Bornstein.
Bien sûr, tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.